Chapitre 2. Des étrangers. Alors que Rand et Matt traversaient la salle commune avec les deux premiers tonneaux, Bran Alvéré était déjà en train de remplir deux chopes à une barrique de bière brune, une fabrication maison et le must de sa carte des boissons. La queue enroulée autour des pattes et les yeux fermés, Griffur, le chat roux de l'auberge, se prélassait sur la précieuse barrique. Debout devant la grande cheminée en galets de la rivière, Tam finissait de bourrer une pipe à long tuyau avec le tabac que Bran gardait dans une boîte en métal posée sur le manteau. Le foyer occupait une bonne moitié d'un mur de la salle carrée, et son manteau se situait à hauteur d'épaule d'un homme de taille normale. Des flammes crépitaient dans cette imposante cheminée, délivrant une délectable chaleur. À 7 heures, la veille de Beltine, un jour très chargé en préparatifs, Rand s'attendait à trouver la salle vide. Mais en plus de l'aubergiste, de Tam et du chat, 4 membres du conseil, dont le vieux Sen, étaient assis sur des chaises à haut dossier, en face de la revue grande flambée. La fumée bleue de leur pipe leur faisant comme une auréole, les 4 hommes ne lisaient pas. Tous les livres de Bran étaient à leur place sur l'étagère qui faisait face à la cheminée, et ne jouaient pas non plus au jeu des pierres. Attendant que Tam et Bran viennent les rejoindre, ils ne se donnaient même pas la peine de parler, préférant contempler mornement leur chope de bière ou se tapoter nerveusement les dents avec le tuyau de leur pipe. L'inquiétude était de mise au conseil ces derniers temps, et cela ne se limitait pas à Chandemonde. Il en était sûrement de même à Colline de la Garde, à Promenade de Dévennes et même à Bac-sur-Tarène. Encore que dans ce dernier cas, qui pouvait dire ce que pensaient les gens du cru? 2 hommes seulement levèrent les yeux lorsque les jeunes gens entrèrent dans l'auberge. Harald Luhan, le forgeron, et John Tain, le meunier. Le forgeron fit un peu plus que de lever les yeux. Ses énormes bras reposant sur son tablier de cuir, la preuve qu'il venait directement de son atelier, il examina attentivement les 2 garçons, s'assit bien droit sur son siège, eut une étrange expression, puis recommença à bourrer méticuleusement sa pipe. Intrigué, Rand ralentit le pas et faillit crier quand Matt lui flanqua un coup de pied dans la cheville. Son ami désignant avec insistance la porte qui se découpait au fond de la salle, il le suivit en boitillant.
« Quelle mouche t'a piqué ? »
demanda-t-il quand Matt et lui se furent engagés dans le couloir menant à la cuisine.
« Tu as failli me casser !»«
C'est le vieux Luhan !»
souffla Matt en jetant un coup d'œil derrière lui.
« Je crois qu'il me soupçonne d'être celui qui... »
Matt s'interrompit, car maîtresse Alvéré venait de sortir de la cuisine, une bonne odeur de pain très récemment cuit lui faisant comme une traîne. La femme de Bran portait un plateau lesté d'un assortiment de fromages, de plusieurs bocaux de condiments et des délicieux petits pains croustillants qui faisaient sa réputation à Chandemonde et aux alentours. Cette vision rappela à Rand qu'il n'avait rien mangé depuis le matin, un petit déjeuner réduit à un croûton de pain. Son estomac émit des gargouillis franchement embarrassants. Ses cheveux gris nattés rejetés derrière ses épaules, Dame Alvéré, aussi élancée que son mari était bedonnant, adressa aux 2 garçons un sourire maternel.
« Si vous avez faim, et à votre âge c'est un état permanent, il reste de tout dans la cuisine. Et si vous préférez, j'ai fait du pain d'épices ce matin. »
L'épouse de Bran était une des rares femmes du village qui ne jouait jamais les marieuses avec Tam. Et si elle se montrait très gentille avec Rand, ne lui refusant jamais un encas quand il en avait envie, elle se comportait de la même manière avec tous les jeunes hommes du coin. Même si elle le regardait parfois d'un air inquiétant, pour lui, faut-il préciser, elle en était toujours restée là, une retenue dont il lui était sincèrement reconnaissant. Sans attendre de réponse, maîtresse Alvéré reprit son chemin et entra dans la salle commune. Des bruits de pieds de chaise indiquèrent que tous les hommes s'étaient levés pour l'accueillir. Un concert d'exclamations salua l'arrivée des petits pains. La femme du bourgmestre était sans conteste la meilleure cuisinière de la région, et aucun homme sain d'esprit n'aurait hésité à parcourir des lieux pour venir s'asseoir à sa table.
Du pain d'épices !»
répéta Matt en se léchant les babines.
« Après !» dit Rand, intraitable. « Sinon, nous n'en aurons jamais fini. »
Une lampe accrochée au-dessus de la porte éclairait l'escalier de la cave. Une autre, dans le sous-sol au mur de pierre brute, projetait une vive lumière qui bannissait la pénombre dans les coins les plus lointains de la pièce. Le long des murs, des tonnelets d'alcool de pomme, des tonneaux de cidre et d'énormes barriques de bière et de vin vieillissait à l'abri des variations de température. Sur les barriques de vin, Bran avait inscrit à la craie toute une série d'informations, la date d'achat, l'identité du colporteur et la ville de provenance. Pour le cidre et la bière, tout le stock provenait de deux rivières, et l'aubergiste lui-même exerçait à mi-temps l'activité de brasseur. Certains colporteurs, voire quelques marchands, proposaient de l'alcool de pomme et de la bière, mais leur breuvage coûtait une fortune et n'était pas meilleur, loin de là, que la production locale. En général, quand on les goûtait, ça ne donnait pas envie d'y revenir.
« Si tu m'expliquais pourquoi tu préférerais éviter Maître Luhan ?» demanda Rand quand les deux tonneaux furent en place sur une solide étagère.
« Qu'as-tu encore fait ?»
Matt haussa les épaules.
« Rien de bien grave. J'ai dit à Adan Alkar et à deux de ses morveux d'amis, Ewin Fingar et Dag Coplin, que des fermiers avaient vu courir dans la forêt des chiens fantômes qui crachaient du feu. Bien sûr, ces idiots ont gobé mes sornettes.
« Maître Luhan t'en veut à cause de ça ?»
s'étonna Rand, soupçonneux.
« Pas exactement. »
Matt hésita, puis secoua la tête.
« Bon, j'ai couvert deux de ces chiens de farine, pour qu'ils soient tout blancs. Puis je les ai lâchés près de la maison de Dag. Comment aurais-je pu deviner qu'ils allaient rentrer chez eux à la course ? J'y suis pour rien, bon sang. Et si Maîtresse Luhan n'avait pas laissé la porte ouverte, ils ne seraient jamais entrés. On ne peut pas m'accuser d'avoir rempli de farine la maison du forgeron. »
Matt eut un éclat de rire.
Il paraît que Maîtresse Luhan a chassé les chiens à coups de balai. Et son mari avec.
Rand eut un sourire qui tenait à moitié de la grimace.
À ta place, j'aurais plus peur d'Alsbeth Luhan que de son époux. Elle est presque aussi musclée que lui, et d'un tempérament bien moins conciliant. De toute façon, la question n'est pas là. Si tu marches vite, le forgeron ne te remarquera peut-être pas.
À voir son expression, Matt ne trouva pas la saillie très spirituelle. Quand les deux garçons retournèrent dans la salle commune, l'ami de Rand n'eut cependant aucune raison de se presser. Ayant installé leurs chaises en rond devant le feu, les six hommes débattaient à voix basse. Le dos tourné aux flammes, Tam faisait un exposé et les autres se penchaient en avant pour mieux suivre. Concentrés comme ils l'étaient, ils n'auraient pas tourné la tête même si un troupeau de moutons avait fait irruption dans l'auberge. Rand se serait volontiers approché pour entendre, mais son compagnon le tira par la manche et l'implora du regard. Avec un soupir, Rand céda et sortit s'occuper du chargement. Quand ils furent revenus dans le couloir, les deux amis trouvèrent en haut des marches un plateau couvert de tranches de pain d'épices encore chaudes. Deux chopes et un cruchon de cidre tiède épicé attendaient également les jeunes gens. Malgré son rappel à l'ordre un peu plus tôt, Rand ne put pas se résoudre à patienter, et il fit les deux derniers allers et retours en jonglant avec un tonneau et une tranche de pain d'épices. Lorsqu'il se fut débarrassé de son ultime charge, il s'essuya la bouche d'un revers de la main, chassant les miettes, et lança joyeusement à Matt qui venait aussi d'en terminer.
« Et maintenant, allons voir ce trou !»
Des bruits de pas retentirent dans l'escalier. Manquant trébucher dans sa précipitation, Ewin Fingar déboula dans la cave, l'air surexcité.
« Il y a des étrangers dans le village !»
s'écria-t-il, avant de jeter un regard noir à Matt.
« Je n'ai pas vu de cabot fantôme, mais il paraît que quelqu'un a couvert de farine les chiens de Maître Luhan. À ce qu'on dit, sa femme a une petite idée sur l'identité du coupable. »
Les années qui les séparaient d'Ewin, à peine âgé de 14 printemps, incitaient en général Rand et Matt à ne tenir aucun compte de ses propos. Cette fois, ils échangèrent un regard interloqué, puis parlèrent en même temps.
« Dans le village ?»
s'étonna Rand.
« Pas en forêt ? Un homme avec une cape noire ? As-tu vu son visage ?»
Décontenancé, Ewin regarda tour à tour les deux jeunes hommes. Matt avançant vers lui, l'air pas commode, il se résigna à répondre.
« Bien sûr que j'ai vu son visage. Quant à sa cape, elle est verte, ou peut-être grise. La couleur donne l'impression de changer selon l'endroit où l'homme se trouve. Parfois, il se fond dans le décor et on ne le voit pas avant qu'il bouge. La femme porte une cape de voyage bleue bien plus chic que tous les habits de fête que j'ai vus de ma vie. » Elle est d'ailleurs 10 fois plus jolie que toutes les femmes que je connais. Comme dans les histoires des trouvères, c'est une dame de haute naissance. J'en mettrai ma main au feu.
« Une femme ?»
intervint Rand.
« De qui nous parles-tu donc ?»
Il voulut interroger Matt du regard, mais son ami avait posé les poings sur ses yeux, les fermant comme s'il désirait s'isoler du monde.
« Je voulais te raconter, »
dit-il.
« Mais tu m'as engagé comme homme de peine. »
Il éloigna les mains de son visage, ouvrit les yeux et foudroya Ewin du regard.
« Ces deux étrangers sont arrivés hier soir, et ils sont descendus à l'auberge. Rand, je les ai vus entrer dans le village. Je ne savais pas qu'il existait des chevaux si grands et si élancés. On dirait qu'ils seraient capables de galoper jusqu'à la fin des temps s'il le fallait. Je pense que l'homme travaille pour la femme.
« Il est son champion !»
dit Éowyn.
« C'est comme ça que ça s'appelle dans les histoires !»
Matt continua comme si de rien n'était.
Il obéit à la femme et lui rendait compte. Mais ce n'est pas un employé. Un soldat, peut-être. À la façon dont il porte son épée, on dirait qu'elle fait partie de lui, comme une main ou un pied. À côté de ce gaillard, les gardes du corps des marchands ont l'air de braves corneaux. Et cette femme, Rand, je n'aurais jamais pensé qu'une personne pareille puisse exister. On croirait qu'elle sort tout droit des légendes d'un trouvert. Elle est... Ah, c'est...
Matt s'interrompit pour foudroyer Éowyn du regard.
« Eh bien, une dame de haute naissance. Voilà ce qu'elle est. »«
Très bien. Mais qui sont ces gens ?» demanda Rand. À part les marchands, qui venaient une fois par an acheter du tabac et de la laine, et les colporteurs, on ne voyait pratiquement jamais d'étrangers à Deux-Rivières. Bac sur Tarenne était peut-être plus fréquenté, mais, si loin au sud, les visiteurs étaient vraiment rares. Comme c'était toujours les mêmes chaque année, les marchands et les colporteurs n'étaient plus vraiment des étrangers au sens strict du terme. À Champ-des-Mondes, on n'avait plus vu d'inconnus depuis plus de 5 ans. Fuyant Berlone, où il avait eu on ne savait trop quel problème, le dernier en date était venu se cacher au village, où il n'avait pas séjourné longtemps.
« Et que veulent-ils ? »
ajouta Rand à sa question précédente.
« Ce qu'ils veulent ? »
s'écria Matt.
« Je m'en fiche ! Rand, ce sont des étrangers comme nous n'en avons jamais vu. Des gens fascinants !»
Rand ouvrit la bouche, mais la referma sans avoir parlé. Le cavalier noir l'avait rendu aussi nerveux qu'un chat invité dans un chenil. Et voilà que 3 étrangers débarquaient en ville le même jour. Une coïncidence, vraiment ? Enfin, 3, si la cape du type ne devenait pas toute noire par moment.
« La femme s'appelle Moiraine. »
dit Éowyn, saisissant l'occasion d'en placer une.
« J'ai entendu l'homme s'adresser à elle comme ça. Dame Moiraine. Lui, son nom, c'est Lan. Notre sage dame n'aime pas cette femme, mais moi, elle me plaît bien. »«
Qu'est-ce qui te fait dire que Nina Eve ne l'aime pas ?»
demanda Rand.
« Moiraine lui a demandé son chemin ce matin, et elle l'a appelé « mon enfant ».« Une sage dame !»
Rand et Matt émirent de longs sifflements modulés.
« Bien sûr, elle ne savait pas à qui elle s'adressait, et elle s'est excusée quand elle a compris sa méprise. C'était sincère. Ensuite, Moiraine a interrogé la sage dame sur les herbes médicinales et les notables de Champ-des-Mondes. Elle s'est montrée aussi respectueuse que n'importe quelle femme du village, et même bien plus que certaines. » Elle s'est renseignée sur les anciens, demandant depuis combien de temps ils vivaient ici. Enfin, je n'ai pas tout retenu, mais c'était impressionnant. Ninevé a répondu comme si elle venait de mordre dans un fruit pas mûr. Et quand Dame Moraine s'est éloignée, elle l'a regardée d'une façon qui... Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que ça n'avait rien d'amical.
« C'est tout ?»
demanda Rand.
« Tu connais le caractère de Ninevé, non ? L'an dernier, quand Senbuy l'a appelée « mon enfant », elle lui a tapé sur la tête avec son bâton. Et c'est un membre du conseil assez vieux pour être son grand-père. Notre sage dame explose pour un rien et se calme 1 minute après.
« C'est déjà trop long pour moi !»
marmonna Éowyn.
« Je me fiche de savoir qui est la somme !»
dit Matt.
« Tant que ce n'est pas moi. Les gars, ça va être le plus beau beltine de tous les temps. Une jante dame, un trouvert, que demander de plus ? Au diable le feu d'artifice !»
« Maître ouvert ?»
répéta Éowyn d'un ton inhabituellement aigu, même pour lui.
« Viens avec moi, Rand !»
dit Matt, ignorant une nouvelle fois le garçon.
« Nous avons fini notre corvée, et tu dois voir cet artiste !»
Matt s'engagea dans l'escalier, gravissant les marches 4 à 4. Éowyn le suivit en couinant.
« C'est vrai pour le trouvert ? Matt, c'était pas comme les chiens fantômes, ou les grenouilles !»
Rand prit le temps d'éteindre la lampe, puis il emboîta le pas à ses compagnons. Dans la salle commune, Rowan Hearne et Samuel Crowe avaient déjà rejoint leurs collègues. Du coup, le conseil du village était au complet. C'était Bran qui parlait désormais, la voix si basse que seul un murmure s'échappait du cercle de chaises. Pour ponctuer son discours, il tapait du bout d'un index dans la paume de son autre main,
Autour de lui, tous les conseillers acquiessaient, même Senbui, avec plus de retenue que les autres. La façon dont ces hommes se comportaient, s'isolant du monde, en disait plus long qu'une pancarte. Leur conversation concernait exclusivement le conseil. S'ils tentaient d'écouter, Rand se ferait mal voir. À contre-cœur, il se dirigea vers la sortie. Il lui restait le Trouvert et les deux autres étrangers. Dehors, il constata que Hou ou Tad, les garçons d'écurie de l'auberge, étaient venus chercher Bella et la charrette. Leurs capes claquant au vent, Matt et Ewin continuaient à se quereller en s'éloignant de l'auberge.
« Je te dis que ce n'est pas une blague. Ewin, je ne te joue pas un de mes mauvais tours. Il y a bien un Trouvert en ville. Et maintenant, du balai. Rand, veux-tu dire à ce crétin que je ne lui mens pas et qu'il peut aller voir ailleurs si j'y suis ?»
Rand resserra les pans de sa cape autour de son torse, puis il pressa le pas pour voler au secours de son ami. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car il eut de nouveau le sentiment qu'on l'épiait. C'était beaucoup moins horrible que ce qu'il avait connu avec le cavalier noir, mais ça n'avait rien de plaisant, surtout si peu de temps après la précédente expérience. Jetant un coup d'œil à la place verte, il vit que rien n'avait changé. Des enfants jouaient, des villageois s'affairaient à préparer les réjouissances, et personne ne lui accordait un regard. Le poteau du printemps était abandonné, et il le resterait jusqu'au lendemain. Des cris et des rires d'enfants montaient des rues transversales, comme il convenait à l'approche de Beltine. Bref, tout était normal. Et pourtant, on l'espionnait. Sur une impulsion, Rand se retourna et leva les yeux. Perché au bord du toit de l'auberge, un gros corbeau chahuté par le vent rivait un de ses yeux ronds sur lui. La tête légèrement inclinée, l'oiseau paraissait très intéressé par ce qu'il voyait. Rand ne put plus contenir la colère qui bouillait en lui depuis des heures.
« Saloperie de charognard !»
marmonna-t-il.
« J'en ai assez d'être épié !»
grogna Matt. Rand vit que son ami l'avait rejoint. Lui aussi regarda le corbeau d'un air méchant. Se consultant à peine, les deux garçons ramassèrent chacun une pierre. Les projectiles volèrent bien droit, mais le corbeau s'écarta et les pierres se perdirent dans le vide. Battant une fois des ailes, l'oiseau inclina de nouveau la tête et recommença à observer les deux garçons comme si rien n'était arrivé.
« Tu as déjà vu un corbeau faire ça ?»
demanda Rand à son ami. Sans cesser de fixer l'oiseau noir, Matt secoua la tête.
« Non, ni aucun autre volatile d'ailleurs. »
« Un oiseau maléfique. »
lança soudain une voix féminine mélodieuse, malgré la répugnance profonde qu'elle exprimait.
« Au mieux, il convient de s'en méfier. Au pire... »
Sur un cri strident, le corbeau s'envola, décollant avec une telle violence que deux plumes noires se détachèrent de ses ailes et tombèrent du bord du toit. Stupéfaits, Rand et Matt suivirent du regard la fuite de l'oiseau au-dessus de la place verte, puis en direction des montagnes de la brume, loin au-delà du bois de l'ouest. Devenant d'abord un minuscule point noir, le corbeau disparut bientôt de la vue des deux garçons. Rand se retourna et découvrit la femme qui venait de parler. Comme lui, elle avait suivi le vol du corbeau. Mais elle avait baissé la tête et leurs regards se croisèrent. Rand en resta sans voix. C'était sans nul doute Dame Moiraine, et elle correspondait en tout point aux descriptions de Matt et d'Ewin. Avec tant de choses en plus. En apprenant qu'elle avait traité Ninevée d'enfant, Rand l'avait imaginée sous les traits d'une vieille dame. Une grossière erreur. Enfin, peut-être, parce qu'il était impossible de lui donner un âge en réalité. D'instinct, il l'avait estimée aussi jeune que Ninevée. Mais en la regardant un peu plus longtemps, il avait très vite changé d'avis. Dans ses grands yeux sombres, on lisait une sagesse et une maturité qu'il fallait de longues années pour acquérir. Un instant, Rand eut l'impression que deux étangs jumeaux tentaient de l'attirer afin qu'il se noie dans leur profondeur. À la voir, il semblait logique que Matt et Ewin l'aient décrite comme une dame sortie des histoires d'un Trouvert. Devant tant de grâce et d'autorité, Rand se sentait mal à l'aise, comme s'il avait du mal à tenir sur ses jambes. Très petite, Dame Moiraine lui arrivait tout juste à la poitrine, mais sa présence et sa prestance, toutes deux écrasantes, donnaient l'impression qu'il était inconvenant d'être plus grand qu'elle, comme si sa taille devait être la référence ultime. Dame Moiraine ne ressemblait à personne qu'il eût rencontré. La large capuche de sa cape laissait voir ses cheveux aux délicates boucles. Une vision surprenante, car Rand n'avait jamais croisé une femme adulte qui ne portait pas de natte. À Deux Rivières, toutes les jeunes filles attendaient impatiemment que le cercle des femmes de leur village les autorise à se tresser les cheveux. Et cette dame ne le faisait pas? Sa tenue était tout aussi étrange que sa coiffure. Sa cape en velours bleu ornée de broderies en fil argenté, des feuilles, des grappes et des fleurs, s'harmonisait avec sa robe d'un bleu plus sombre rayée de crème dont la nuance fluctuait un peu au gré des jeux de lumière. Une chaîne en or pendait à son cou et une seconde, plus fine et attachée dans ses cheveux, lui permettait d'arborer au milieu du front une petite pierre précieuse également bleue. Une ceinture en fil d'or tissé ceignait sa taille. À l'index de la main gauche, Moiraine portait une bague du même métal qui représentait un serpent se mordant la queue. Rand n'avait jamais vu un anneau pareil. Pourtant, il reconnut le grand reptile, une représentation symbolique de l'éternité encore plus ancienne que la roue du temps.
« Plus chic que des habits de fête !»
avait dit Éowyn, et il ne se trompait pas. À Deux Rivières, personne ne s'habillait jamais comme ça.
« Bonjour, maîtresse, dame Moiraine, »
dit Rand. Il s'empourpra, confus de son lapsus.
« Bonjour, dame Moiraine, »
lui fit écho Matt avec un tout petit peu plus d'aisance. La femme sourit. Aussitôt, Rand se demanda s'il ne pouvait pas accomplir pour elle quelques tâches qui lui donneraient un prétexte pour la suivre comme son ombre. Le sourire s'adressait aussi à ses compagnons, il le savait, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il était son seul destinataire. Dame Moiraine était vraiment l'incarnation d'un personnage de légende. Aussi fasciné que Rand, Matt affichait un sourire béat.
« Vous connaissez mon nom ?»
dit la dame, visiblement ravie. Comme si son séjour, si bref qu'il doive être, n'allait pas alimenter pendant un an les conversations des villageois.
« Mais il faut m'appeler Moiraine, tout simplement. Et vous, comment vous nommez-vous »
Éowyn bondit en avant, prenant de vitesse ses deux aînés.
« Je suis Éowyn Fingar, madame. Ils connaissent votre nom parce que je leur ai dit. J'ai entendu Lan vous appeler ainsi. » Mais je n'espionnais pas, croyez-le bien. C'est la première fois qu'une noble dame comme vous vient à Chandemond. Nous avons aussi un trou vert à l'occasion de Beltine. Ce soir, c'est la nuit de l'hiver. Passerez-vous chez moi? Ma mère a fait des gâteaux aux pommes.
Je vais voir ce que je peux faire,
dit Moiraine en posant une main sur l'épaule d'Éowyn. Bien qu'elle eût un air mortellement sérieux, ses yeux pétillaient de malice.
Je ne vois pas comment je pourrais éclipser un trou vert, Éowyn. Mais, une fois encore, vous devez tous m'appeler Moiraine. »
Elle regarda Rand et Matt, les incitant à se présenter.
« Je me nomme Matrim Cotton, madame... Moiraine. »
Il se fendit d'une révérence maladroite et se redressa, rouge comme une pivoine. Rand s'était demandé s'il devait se lancer dans un salut de ce genre, comme les courtisans dans les histoires. Échaudé par l'exemple de Matt, il se contenta de décliner son identité, sans s'en mêler la langue cette fois. Moiraine regarda les deux jeunes gens avec un sourire qui, cette fois, rappela à Rand celui d'Egwen quand elle avait un secret.
« Durant mon séjour à Chandemond, j'aurai sans doute besoin de quelques menus services. Seriez-vous d'accord pour me les rendre ?»
Rand, Matt et même Éowyn hochèrent frénétiquement la tête.
« Dans ce cas ?»
À la grande surprise de Rand, Moiraine lui glissa une pièce dans la main et, avec les deux siennes, l'incita à refermer les doigts dessus.
« Ce n'est pas la peine, »
commença-t-il. Mais la dame balaya ses objections d'un geste nonchalant. Puis elle remit une pièce à Éowyn et une autre à Matt.
« Bien sûr que si, c'est la peine. Personne ne travaille pour rien et c'est normal. Considérez votre pièce comme un souvenir et gardez-la sur vous. Ainsi, elle vous rappellera notre accord lorsque j'aurai besoin de vous. Nous sommes liés maintenant. »«
Pas de risque que j'oublie, »
souffla Éowyn.
« Plus tard, »
conclut Moiraine.
« Nous parlerons, et vous me direz tout sur vous. »«
Dame... Moiraine ?»
appela Rand, alors que la femme se détournait déjà. Elle le regarda, si intimidante qu'il eut du mal à déglutir.
« Que venez-vous faire à Chandemond ?»
Même si Moiraine ne changea pas d'expression, Rand regretta aussitôt d'avoir posé cette question. Afin de dissiper tout malentendu, il se lança dans une grande explication.
« Je ne voulais pas être discourtois, désolé. Mais vous savez, personne ne passe jamais par chez nous,
à part les marchands et les colporteurs, quand la neige ne bloque pas les routes qui viennent de Berlon. Alors, recevoir la visite d'une dame comme vous... Les gardes des marchands disent souvent que Chandemond est le trou le plus perdu du monde. Et ils ne doivent pas être très loin de la vérité. Vous pensez la même chose, non? Alors, je me demandais...
Le sourire de Moiraine s'effaça, ou plutôt se dissipa, comme si elle venait de se rappeler quelque chose.
« J'étudie l'histoire, »
répondit-elle enfin, son regard perdu bien au-delà des trois garçons.
« Plus précisément, je compile d'antiques récits. Ce territoire que vous appelez Deux Rivières m'a toujours intéressé. Lors de mes voyages, je cherche à explorer le passé des lieux qui me fascinent. Il y a toujours des histoires merveilleuses à collecter. »
« Des histoires ?»
répéta Rand.
« Que peut-il être arrivé à Deux Rivières pour intéresser une... En fait, il ne se passe jamais rien ici. »«
Et quel autre nom porte le territoire à part Deux Rivières ?»
demanda Matt.
« Moi, je n'ai jamais entendu que celui-là. »«
Tandis que tourne la roue du temps, »
répondit distraitement Moiraine, comme si elle pensait tout haut.
« Les lieux changent souvent de nom. Les hommes aussi. Et ils arborent des visages différents. » Une multitude d'apparences, mais toujours le même individu. Pourtant, on ne sait rien de la grande trame que tisse la roue du temps. D'ailleurs, qui connaît ne serait-ce que la trame d'un âge? Il nous reste l'observation, l'étude et l'espoir.
Rand dévisagea Moiraine, incapable de parler, même pour lui demander ce qu'elle voulait dire. Avait-elle seulement conscience que trois jeunes gens l'écoutaient? Éowyn et Matt étaient tout aussi soufflés que lui, nota Rand. Fingar en avait même la mâchoire pendante. Moiraine s'intéressa de nouveau à ses interlocuteurs, qui sursautèrent comme s'ils sortaient d'une transe.
« Nous parlerons plus tard, »
dit-elle.
« Oui, plus tard. »
Semblant glisser sur le sol et non marcher, elle se dirigea vers le pont au chariot, les pans de sa cape lui faisant comme une paire d'ailes. Un grand type que Rand n'avait pas remarqué jusque-là sortit des ombres du porche de l'auberge et la main posée sur la longue poignée d'une épée emboîta le pas à Moiraine. Vêtu de vert foncé, une couleur qui aurait fait un camouflage parfait en forêt, l'homme portait une cape dont les teintes gris, marron et vert fluctuaient effectivement au gré de ses mouvements et des caprices du vent. Par moments, l'étrange vêtement se fondait si bien avec le paysage que son propriétaire semblait disparaître. Tenu par une lanière de cuir, les longs cheveux de l'inconnu grisonnaient sur les tempes. Le visage buriné par le soleil, le compagnon de Moiraine était cependant épargné par les rides. À le voir se déplacer, Rand ne put s'empêcher de penser à un loup. Quand il passa devant les trois garçons, le mystérieux guerrier leur accorda à peine un regard, mais ses yeux d'un bleu polaire parurent cependant enregistrer tous les détails significatifs. En une fraction de seconde, il avait évalué et catalogué les trois jeunes habitants de Chandemond. Mais quel était le résultat de cet examen? Rien sur le visage de l'homme n'aurait permis de le dire. Accélérant le pas pour rattraper Moiraine, il s'adapta ensuite à son rythme et se pencha pour lui parler. Rand s'avisa qu'il retenait sa respiration et s'autorisa à la relâcher.
« C'était l'âne !»
Quoiça Éowyn, comme s'il manquait lui aussi d'air, après avoir essuyé le regard du guerrier.
« Je vous dis que c'est son champion !»«
Ne raconte pas n'importe quoi !»
s'écria Matt. Il ricana, mais lui aussi avait la voix mal assurée.
« Les champions, c'est pour les récits. Et ils ont une épée et une armure ornées d'or et de pierreries pour commencer. Ensuite, ils passent leur temps au nord, dans la flétrissure, à combattre les démons, les trollocs et d'autres monstres de ce genre.
« Il pourrait être un champion !»
insista Éowyn.
« Tu as vu de l'or et des pierreries sur lui ?»
railla Matt.
« Et les trollocs abondent-ils à Deux Rivières ? Ici, nous avons plutôt des moutons. Je me demande d'ailleurs quel événement passé peut intéresser une femme comme Moiraine.
J'ai une hypothèse, »
fit Rand.
« On dit que l'auberge existe depuis au moins 1000 ans, voire plus. »«
10 siècles de moutons !»
lâcha Matt, implacable.
« Un sou d'argent !»
s'écria Éowyn.
« Elle m'a donné un sou d'argent !» « Pensez à tout ce que je vais pouvoir acheter au colporteur !»
Rand ouvrit la main pour examiner sa pièce, et de surprise, il faillit la laisser tomber. Il ne parvint pas à identifier la monnaie, frappé de l'image d'une femme faisant danser une flamme au-dessus de sa paume tournée vers le ciel.
mais il avait assez souvent observé Bran quand il pesait les pièces des marchands originaires d'une bonne dizaine de pays pour avoir une excellente idée de la valeur de ses gages. Avec un pareil poids d'argent, on pouvait acheter un très bon cheval partout à Deux-Rivières et avoir un peu de monnaie après. Dévisageant Matt, Rand constata qu'il était aussi surpris que lui. Perplexe, il orienta sa main pour que son ami puisse voir la pièce, mais pas Éowyn. Puis il haussa les épaules, indiquant qu'il n'y comprenait rien. « De quel service a-t-elle donc besoin ? » finit-il par demander.
« Je n'en sais rien, et je m'en fiche. Bien entendu, je ne dépenserai pas cet argent, même quand le colporteur sera là. »
Sur ces mots, Matt glissa la pièce dans une poche. Avec un hochement de tête approbateur, Rand imita son ami. Sans trop savoir pourquoi, il était certain que Matt avait raison. Il ne fallait pas dépenser cet argent, parce qu'il venait d'elle, tout simplement. Il ignorait à quoi d'autre pouvait servir une pièce, mais...
« Je dois aussi garder la mienne ?»
demanda Éowyn, dubitatif.
« C'est ton affaire, »
lâcha Matt, laconique.
« Elle te l'a donnée pour que tu la dépenses, »
ajouta Rand. Éowyn contempla son sou d'argent, secoua la tête, puis rangea lui aussi son trésor dans sa poche.
« Je la garde, »
dit-il, non sans mélancolie.
« Il nous reste le trouvert, »
rappela Rand. L'humeur de l'adolescent s'améliora aussitôt.
« S'il se réveille un jour, »
modéra Matt.
« Rand ?»
demanda Éowyn.
« Il y a vraiment un trouvert au village ?»«
Tu verras bien, »
répondit Rand avec un grand sourire. À l'évidence, Éowyn refuserait d'y croire tant qu'il n'aurait pas vu l'artiste de ses yeux.
« Et il devra bien finir par descendre de sa chambre. »
Des cris retentirent, montant du pont au chariot. Quand Rand tourna la tête pour voir ce qui se passait, son sourire s'élargit encore. Une foule de villageois de tous les âges, y compris de vénérables vieillards et des bambins tout juste capables de marcher, escortait un énorme chariot tiré par 8 chevaux. Des dizaines de ballots étaient accrochés à la bâche ronde du véhicule, tellement chargé qu'il avait du mal à avancer. Le colporteur était enfin là. Deux étrangers, un trouvert et un colporteur, plus un feu d'artifice. Ces fêtes de Beltine promettaient d'être